Éphésiens 6, versets 1 à 9. Alors, vous voyez le titre, « Enfants, obéissez à vos parents ». Bon. On n'a pas trop d'enfants ce matin, à part nos jeunes gens, mais enfin, ils sont déjà des grands-enfants. Je vous salue au passage, puisque vous êtes arrivés un petit peu en retard. Et je vous remercie, en tout cas, de votre participation à ce culte. Alors, dans le chapitre précédent, que nous avons lu, bien sûr, Paul avait traité des relations au sein du nouveau peuple de Dieu, et le maître mot de ces relations était la soumission mutuelle. Rappelez-vous, Éphésiens 5, verset 21, « Étant soumis les uns aux autres, soumettez-vous les uns aux autres. » C'est le maître mot des relations dans le nouveau peuple de Dieu, l'Église, telle que la conçoit l'apôtre Paul. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le premier exemple de soumission mutuelle qu'il avait donné concernait les relations dans le couple. On avait vu ça la dernière fois. Il avait invité les femmes à se soumettre à leur mari et les maris à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Paul aborde maintenant les relations parents-enfants. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Ah oui, j'avais écrit là, sur cette diapo que j'ai faite ce matin, combien de problèmes disparaîtraient d'eux-mêmes si nous appliquions cette exhortation apostolique de se soumettre les uns aux autres dans nos familles, dans nos relations professionnelles, on le verra avec la suite, et surtout dans l'Église. Ah oui, je vais peut-être lire ce que j'ai mis sur ma diapo. Dans la relation époux-femme, Paul avait utilisé le verbe hypotasso, qui veut dire littéralement se ranger dessous, hein, pour les épouses, ou la soumission, ou la subordination. Pour les relations parents-enfants, il n'utilise pas le même verbe. Il utilise le verbe hupakouo, qui veut dire obéir. C'est quand même nettement un degré de plus. Alors voilà ce que dit Paul. Vous, enfants, obéissez, hupakouo, à vos parents, à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. On a donc là une exhortation adressée par l'apôtre aux enfants. On peut y voir un indice certain que les enfants participaient au culte dans les églises du premier siècle. Autrement, Paul n'aurait pas inclus cette exhortation dans sa lettre. C'est aussi un principe valable au XXIe siècle. Il est bon que nos enfants soient présents au culte, car ils y entendront la parole de Dieu et apprendront à respecter ses commandements. Dans les églises dites « darbistes », que j'ai fréquenté pendant des années, et puis je suis né dedans, hein, la méditation de la parole de Dieu avait lieu chaque dimanche après-midi, en gros de 15h à 16h30. Donc il y avait le culte le matin et la méditation de la parole de Dieu l'après-midi. Donc on passait toute la journée à l'assemblée. Nos jumeaux étaient présents, mais se vautraient sur les bancs. Ils semblaient vraiment dormir, et peut-être le faisaient-ils souvent. Mais nous nous sommes aperçus, Chantal et moi, qu'ils avaient retenu pas mal de choses. Au moins certains passages des prédications qui étaient donnés, et cela à notre grand étonnement. Bien sûr, il est bon que les enfants reçoivent un enseignement adapté à leur âge. Et c'est le rôle de l'école du dimanche, on a prié pour ça. Mais n'allons pas nous imaginer que les dispenser d'assister au culte est légitime au prétexte qu'ils n'y comprennent rien. En tout cas, nous, on l'a vécu dans notre famille. Alors, je reviens donc au terme utilisé par Paul. Le verbe qu'utilise Paul est « obéir », hein, « hupakouo ». Il est à l'impératif. Et non, le verbe « soumettez-vous », hein, qui est « hupotasso ». La soumission fait bien sûr partie de l'obéissance, mais Paul demande aux enfants plus que se soumettre. Il leur demande d'obéir. On peut voir ainsi la différence avec ce qu'il demande aux épouses. John Stott, le théologien anglais là dont je me suis bien servi pour ce message, écrit « La conception d'un mari qui ordonne et d'une femme qui obéit est tout à fait étrangère au Nouveau Testament. La soumission de la femme est autre chose que l'obéissance, puisqu'il s'agit d'un don de soi-même volontaire à un mari aimant, plein de sollicitude à son égard, au moins théoriquement. En somme, la soumission de l'épouse est la réponse de son amour à celui de son mari, écrit John Stott. Avec les enfants, on est donc dans un type de relation différent. Même si l'amour, tant des parents que de leurs enfants, n'est bien sûr pas absent dans leur relation mutuelle. Alors Paul donne trois raisons à l'obéissance requise des enfants. D'abord, une raison naturelle, contenue dans la formule « parce que cela est juste ». On observe dans toutes les civilisations et toutes les époques qu'il est naturel que les enfants obéissent à leurs parents. Cela fait partie de la loi naturelle que Dieu a écrite dans le cœur des hommes. Rappelez-vous ce que disait Paul en Romains 2, versets 14 et 15. Romains 2, versets 14 et 15. « Lorsque les païens, qui n'ont pas la loi de Moïse, accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Cette loi de l'obéissance des enfants à leurs parents n'est pas spécifique à la morale chrétienne. » Les moralistes païens l'enseignaient, en particulier du temps de Paul, les philosophes stoïciens. Mais encore bien plus loin dans l'histoire, par exemple le philosophe chinois Confucius, 5e siècle avant Jésus-Christ, insistait beaucoup sur le respect filial. Deuxièmement, cette obéissance est requise par la loi révélée de Dieu, la loi de Moïse. Donc plus que la loi naturelle admise par toute l'humanité, mais la révélation spéciale de Dieu à son peuple. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Vous remarquez que Paul a adapté cette citation de la loi de Moïse en « sur la terre, afin que tes jours se prolongent sur la terre. » Alors que Moïse avait écrit hein, « afin que de prolonger tes jours sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » C'est-à-dire qu'il avait en vue, bien sûr, la terre d'Israël. Et pour Paul, c'est beaucoup plus général. Hein, c'est toute la terre, païen compris. Autre détail significatif, les Juifs ont coutume de diviser les 10 commandements en 5 commandements régissant les devoirs envers Dieu et les 5 autres, les devoirs envers les hommes. Donc 5 et 5. Selon cette répartition, notre 5e commandement, qu'on vient de lire, fait partie des devoirs envers Dieu. En effet, durant toute notre enfance, nos parents sont les représentants de Dieu. Ils sont mandatés par lui pour manifester son autorité et son amour. Pour les enfants d'Israël, le respect dû aux parents faisait partie intégrante du respect accordé à Dieu en tant que leur Dieu, écrit John Stott. On voit que Paul préfère appuyer ce commandement d'une promesse plutôt que d'une menace. Une promesse de vie longue et heureuse sur cette terre. Même si le summum de nos bénédictions est céleste, dans la même épître, on a lu que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Paul ne tient pas pour rien les bénédictions terrestres que Dieu nous octroie dans sa grâce en retour de notre obéissance à ses commandements, et particulièrement donc de celui-ci. Application pratique. Est-ce que nous honorons, comme nous le devons, nos parents qui vieillissent? S'ils viennent à être dans le besoin ou encore s'ils perdent leur autonomie. Les laisserons-nous à leur détresse ou à leur solitude? Quand je travaillais à l'hôpital, j'ai eu une interne syrienne dans mon service. Un jour, elle m'a fait part de son étonnement de voir que tant de personnes âgées qui sont hospitalisées pour un problème de santé passager ont toutes les peines du monde à être accueillies par leurs enfants à la sortie de leur hospitalisation, ces derniers refusant souvent de les prendre en charge. Dans son pays, me disait-elle, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, les personnes âgées, on les prend chez nous. La troisième raison que Paul donne dans son exhortation adressée aux enfants d'obéir à leurs parents est contenue dans l'expression littérale « dans le Seigneur » ou « selon le Seigneur » et que la traduction du Semeur a traduit par « à cause du Seigneur ». Mais littéralement, il est écrit « en Jésus Christo », donc c'est « dans le Seigneur Jésus-Christ ». Dans le nouveau peuple de Dieu que nous décrit Paul dans cette épître, les relations familiales sont censées être débarrassées du manque de respect et de l'égocentrisme. Désormais, toutes nos relations sont transformées car elles se situent dans le Seigneur. Même l'obéissance envers les parents a changé. L'enfant ne se plie plus à contre-cœur sous l'autorité des parents. L'enfant chrétien apprend à leur obéir avec joie, car cela est agréable au Seigneur, selon Colossiens 3, verset 20, donc dans l'épître qui est juste après, l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 20, Paul écrit « Enfants, obéissez à vos parents », il rajoute « en toute chose ». C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. On peut aussi ajouter que les enfants peuvent s'inspirer de l'exemple même de Jésus, qui, enfant, se soumettait avec amour à l'autorité de ses parents terrestres, alors qu'il était leur créateur et allait devenir leur sauveur.
Alors, je ne sais plus où j'en suis là. Ouais.
Voilà. Au verset 4, Paul aborde le devoir des parents. Il dit « Vous, père », mais nul doute que ce père englobe les deux parents, même si le père symbolise l'autorité. « Vous, père, n'exaspérez pas vos enfants. » Le verbe utilisé est « parorgizomai », qu'on peut traduire aussi par « irriter »,« provoquer ». On voit que Paul souligne moins l'exercice de l'autorité que ses limites. Mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Le verbe traduit ici par « éduquer », c'est « ectrepo », signifie nourrir, élever avec tendresse. Et le mot traduit ici par conseiller a en réalité un sens un peu plus fort. En fait, c'est en paideia qui évoque dans la discipline, hein, dans l'éducation, c'est-à-dire dans la discipline. Donc, à la fois élever et nourrir, l'esprit autant que le corps, avec tendresse, et à la fois éduquer avec une certaine discipline. La discipline fait partie de l'amour des parents pour leurs enfants. Proverbe 13, verset 24. Celui qui refuse de châtier son fils, littéralement celui qui lui épargne le bâton, ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. La discipline a sa raison d'être, comme Paul le rappelle. Encore faut-il qu'elle ne soit jamais arbitraire. Car les enfants ont un sentiment aigu de la justice. Elle ne doit pas non plus être cruelle, autrement les enfants se découragent. Colossiens 3, verset 21. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. En revanche, rien ne favorise autant l'éclosion et l'épanouissement des dons d'un enfant que l'encouragement prodigué par des parents aimants et compréhensifs. Derrière cette recommandation aux parents de modérer leur autorité, il y a la claire reconnaissance que les enfants ont aussi une vie et une personnalité propre, même s'ils leur doivent à leurs parents obéissance selon le Seigneur. Ainsi donc, Des siècles avant l'apparition de la psychologie moderne, l'Écriture soulignait l'importance vitale des premières années de la vie d'un enfant, ainsi que sa fragilité qui nécessite la tendresse et la sécurité de l'amour. Et John Stott terminait son commentaire de ce passage par les mots suivants, je ne sais pas si je l'ai mis, mais voilà. Ainsi, le principal souci des parents ne doit pas être que leurs enfants se soumettent à leur autorité, mais plutôt que, par elle, ils arrivent à connaître le Seigneur et à lui obéir. Voilà, je m'en tiens là pour ce message.